Archéologie biblique par le père Philippe, à Saint-Joseph, le 19 février 85.
Dans l'Exode 23, 1, 19, ce que nous avions vu la dernière fois, nous voyons les prescriptions données pour motif de justice. Il est clair que l'homme religieux de la Bible doit être un homme honnête. Mais précisément, sur quoi se fonde ce lien de nécessité entre éthique religieuse et éthique humaine selon la loi? Est-ce un lien intrinsèque en vertu de la fraternité qui doit régner à l'intérieur de la race choisie? Ou est-ce un lien extrinsèque, à savoir que toute injustice mine indirectement la foi en Yahvé? En effet, si au sein du peuple élu, l'autorité vient de Dieu, toute injustice ou abus de pouvoir risque de saper la confiance en ce Dieu dont on se réclame. Il faut donc être juste pour ne pas tenter la foi d'autrui. Dernière possibilité, avant le Christ, il n'y a pas moyen de fonder rigoureusement le lien entre agir religieux et agir humain. Donc, comprenons bien. Nous sommes en présence, et c'est bien de poser la question, nous sommes en présence d'une loi positive de Dieu, communiquée à son peuple. Je prends le texte tel qu'il nous est donné. C'est une loi divine pour éduquer le peuple d'Israël, l'éduquer d'une manière religieuse. Quelle est la finalité de l'éducation de Dieu quand il éduque son peuple? Faire du peuple d'Israël un peuple qui adore son Dieu. Un peuple qui sache discerner les faux dieux du véritable Dieu. À la différence des autres peuples qui adorent des quantités d'idoles. Donc c'est bien, je crois, cet aspect de l'adoration qui commande tout. Vous voyez, quand vous regardez le début de l'Exode et que vous regardez la mission de Moïse, c'est d'arracher le peuple d'Israël au joug de l'Égyptien, pas premièrement pour un bien-être. C'est là où on verrait ce que c'est que la théologie de la libération. Pas premièrement pour un bien-être. Moïse ne dit pas premièrement, puisque vous subissez des injustices, moi je vais vous libérer et vous aurez un bien-être humain. C'est pas pour ça. C'est qu'il redécouvre le sens de sa vocation à 3 jours de marche dans le désert pour adorer et adorer le Dieu unique. Donc, on peut dire que c'est cela que représente la libération du peuple d'Israël. Libérer le peuple d'Israël d'un joug qui l'empêchait d'être ce qu'il devait être pour Dieu. Un peuple choisi, un peuple qui adore, un peuple qui vit cette adoration. C'était, je crois, ça qui commande tout. Mais c'est toujours par le point de vue de la finalité qu'il faut regarder. C'est ça qui est le point de vue de la loi. Les prophètes annonceront un sauveur. Ce n'est pas le rôle de la loi d'annoncer le sauveur. Le rôle de la loi, c'est d'éduquer. Et d'éduquer religieusement par le point de vue, du point de vue d'adoration. La seule façon de pouvoir recevoir les prophètes, c'est d'être dans une attitude d'adoration. Si on n'adore plus, on ne peut plus recevoir les prophètes. On ne peut plus recevoir le message de Dieu. Ça, c'est net. Donc, c'est l'adoration qui donne cette capacité de recevoir l'enseignement que Dieu donnera par les prophètes. Mais le propre de la loi, c'est donc d'ordonner le peuple d'Israël pour que le peuple d'Israël devienne un peuple religieux. qui adore son Dieu. Dans cette lumière, on comprend l'adoration, la vertu de religion, c'est analogiquement la justice à l'égard de Dieu. Ce n'est pas une véritable justice, puisque à l'égard de Dieu, il n'y a pas une véritable justice, puisqu'on doit tout à Dieu, et qu'on a tout reçu de lui gratuitement. Donc ce n'est pas une véritable justice. Dans une véritable justice, il y a les droits de l'autre, et les droits réciproques qu'on doit regarder. Et on respecte ces droits réciproques. Donc on est en face de deux parties. La créature, au sens rigoureux, n'est pas une partie en face de Dieu, puisqu'elle a tout reçu de Dieu. Donc, ce n'est pas une justice au sens absolu, mais c'est une certaine justice. Ce que saint Thomas souligne, et je crois qu'il a tout à fait raison, quand il nous dit que, de fait, la créature doit reconnaître les droits souverains de Dieu. Et reconnaître les droits souverains de Dieu, c'est justement l'adorer. On adore Dieu, et on n'adore que Dieu, parce que Dieu est le Créateur. On ne peut adorer que le Créateur, dont on dépend totalement. Et par l'adoration, on reconnaît cette totale dépendance et cette remise entièrement entre les mains de Dieu. C'est le propre de l'adoration. On comprend alors, dans cette lumière, puisque Dieu est le Dieu de tous les hommes, mais il est le Dieu, d'une façon particulière, de son peuple. Puisque le peuple d'Israël est le peuple choisi. Donc, c'est les prémices de Dieu. Il a une place particulière. Mais cette place particulière n'enlève pas le point de vue de ce que représentent les autres hommes. Alors, on retrouve toujours, et c'est ça qui me semble intéressant dans ce que nous avions vu la dernière fois, on retrouve toujours comme deux aspects de la justice. Une justice particulière du peuple d'Israël entre ses différents membres. Et une justice par rapport à ceux qui sont extrinsèques, qui ne font pas partie du peuple d'Israël, mais qui sont des hommes. Alors vous voyez bien que cette justice est toute dépendante, et je dirais intrinsèquement dépendante, de ce que représente le point de vue de l'adoration et la vertu religion. Et la vertu de religion. Le fondement nouveau de la justice, tel que nous le regardons dans la Torah, le fondement nouveau de la justice, ce n'est pas l'homme en premier lieu, mais c'est Dieu créateur. C'est donc l'adoration. Et cette adoration va de fait obliger une attitude particulière du peuple d'Israël à l'égard de tous ceux qui sont les membres de la communauté. C'est dans la ligne directe de ce mystère de l'adoration. Vous voyez, la différence d'une éthique humaine, type Aristote, je vous ai dit, c'est très intéressant, il faudrait constamment faire le parallélisme, au point de vue éthique et au point de vue politique, parce que c'est par là que, du reste, nous sommes obligés d'exercer notre intelligence. N'oublions jamais qu'on exerce son intelligence d'une façon très particulière dès qu'on est obligé de comparer et de voir ces deux aspects tout à fait différents, l'éthique et la politique d'Aristote, et ce que représente l'Exode, où on est en présence du peuple d'Israël qui commence à se constituer. Avant, c'est la famille. Le passage de la famille à ce que représente le peuple. C'est ce passage que Aristote souligne avec tellement d'importance en disant que si on confond l'autorité politique et l'autorité familiale, on est un barbare. Eh bien, je trouve dans l'Écriture, et c'est ça qui me semble extrêmement intéressant à voir, je trouve dans l'écriture, de fait, dans une perspective tout à différente, je ne pourrais pas me fonder sur l'écriture pour faire la philosophie de la famille et la philosophie politique. Je ne pourrais pas me fonder sur l'écriture pour faire une éthique personnelle et une éthique politique. Mais je peux voir les parallélismes. Et voir les parallélismes m'aide beaucoup à comprendre. Parce que si le point de vue philosophique dit certains aspects, pour moi qui suis croyant, que ces aspects que la philosophie dit ne sont en rien en contradiction avec ce que je vois dans l'écriture, dans la Bible, ça me donne une confirmation extrinsèque que ce qui est dit au point de vue philosophique est vrai. Quand au contraire, vous avez deux points de vue différents, le point de vue philosophique et le point de vue proprement révélation. Quand il y a un hiatus entre les deux, alors évidemment, on peut se dire, deux lumières différentes, est-ce que de fait cette diversité provient des deux lumières différentes, ou est-ce que, au point de vue philosophique, il y a quelque chose de l'homme que je n'ai pas saisi? Oui. Je ne sais pas si vous soulignez suffisamment ce que je veux montrer ici. Parce que c'est ça qui me semble important. Nous n'avons pas à lire la Bible n'importe comment. Nous avons à lire la Bible avec intelligence. Hein. Parce que c'est très intelligent tout ça. C'est souverainement intelligent. Il y a un peuple qui en a vécu pendant des milliers d'années et qui a préparé par là ce que nous vivons. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Il y a eu une longue préparation. Et tout ce grand mystère de la Torah, parce que c'est un mystère, ce grand mystère de la Torah nous donne sur l'homme et les relations de l'homme avec Dieu un regard qui est très profond, qui est très grand. Et ce regard me fait comprendre toute la différence qu'il existe entre une éthique religieuse et une éthique proprement humaine. Cette distinction, je peux la penser uniquement au niveau philosophique. Et je crois, je vous l'ai dit, mais je le redis maintenant, je crois qu'on ne l'a pas assez montré. On n'a pas assez montré, au point de vue éthique, le passage de l'éthique humaine et de l'éthique religieuse. Kierkegaard a bien senti ça. Mais alors il l'a donné à sa manière, c'est-à-dire d'une façon assez descriptive, pas donner les principes, puisque c'était difficile dans sa philosophie de pouvoir donner le point de vue des principes. Mais il a saisi qu'il y avait quand même quelque chose de particulier entre l'éthique, l'esthétique et l'aspect religieux de la foi. Alors il y a un petit blocage chez lui entre la foi et le point de vue religieux, mais il a senti qu'il y avait des niveaux différents et qu'il fallait respecter ces niveaux différents. Je crois que nous devons aujourd'hui, si nous voulons lire l'Écriture et surtout ces passages de l'Exode, puisque c'est surtout dans ces passages de l'Exode où on voit ça le mieux, on doit lire l'Écriture en essayant de comprendre comment nous sommes en présence d'une éthique religieuse dans, sans doute, sa plus grande dimension. Et d'une éthique politique religieuse directement téléguidée par Dieu. Ce passage que nous avons lu tout à l'heure au point de vue de la politique d'Aristote. On pouvait, en lisant ça, on pense nécessairement à ce que représente le peuple d'Israël au désert. Au désert, il est gouverné par Dieu. Parce qu'il est gouverné par Moïse, qui lui est médiateur entre Dieu et son peuple. Après, le peuple d'Israël réclamera un roi. On verra cela, un moment si important. Et ce moment va peut-être donner une vision assez particulière à ce que représente le point de vue d'une philosophie politique religieuse. Est-ce que, on devra se poser la question à ce moment-là, est-ce qu'une politique religieuse demande-t-elle d'avoir un roi ? Ou est-ce qu'elle peut se dispenser d'un roi et être directement dépendante de Dieu ? Parce que là, il y a un problème. Alors, je crois que c'est lorsque la foi commande directement l'attitude religieuse qu'il peut y avoir ce lien direct avec Dieu. Mais quand la foi commence à diminuer et que l'attitude religieuse demeure, à ce moment-là, on réclame une autorité de la communauté, donc un roi visible. Vous voyez ? Donc il y a là quelque chose qui est très important pour nous à essayer de comprendre, à essayer de saisir. Alors n'hésitez pas, hein, parce que on fait ça très très rapidement, mais si vous avez des questions comme ça, il faut les poser pour essayer d'entrer plus avant dans ce que représente ce mystère du peuple d'Israël. Cette volonté de Dieu d'avoir un peuple qui soit son peuple, et qui soit son peuple en tant que peuple religieux, et qui soit son peuple du c'est-à-dire gouverné par lui, mené par lui. Et voyez que Dieu institue un bon noviciat, 40 ans au désert. Hein. Si on faisait ça aujourd'hui, c'est important pour nous, parce qu'on va entrer dans le carême, et carême rappelle le point de vue des 40 ans dans le désert. Alors c'est quand même intéressant de voir ça. C'est la conduite de Dieu. Si Dieu veut faire de nous des êtres religieux, il nous mène au désert. Un désert très particulier, hein, c'est pas le désert de Montmorin. Hein, le désert, ils sont tous ensemble. Hein. C'est un désert très spécial. Si Dieu n'a pas amené chacun avec sa petite roulotte et sa petite maison et à l'écart, non, non, non. Il les a amenés au désert ensemble. Alors quand on est au désert ensemble, c'est pas commode, hein, parce qu'il y a des frictions, d'autant plus qu'on a faim, d'autant plus qu'on est fatigué, d'autant plus qu'il y a des difficultés. Alors ça c'est très bien, enfin très bien, alors les murmures, toute l'histoire au désert, qui est quelque chose d'extraordinairement grand, parce que c'est l'éducation de Dieu. C'est la manière dont Dieu est pédagogue. Et Dieu intervient pour faire que son peuple soit un peuple religieux, qu'il soit son peuple. Alors je continue. Je reprends au verset 20, 23, 20. Hein. Nous l'avons vu, mais c'est pour le reprendre et continuer après. « Voici que moi, je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin. » et pour te faire entrer dans le lieu que j'ai préparé. Vous voyez, là aussi, c'est intéressant, il y a une promesse. C'est l'espérance. Il y a une promesse. Dieu promet d'aller vers une terre promise. Et ceci, ça fait partie de cette éducation divine. Dieu nous maintient dans un élan et dans une ferveur grâce à une promesse. Si la promesse n'est pas là présente ou qu'on l'oublie, il y a une retombée. On voit très bien, point de vue éducatif. Hein. Vous voyez comment vous éduquez un bon chien en maintenant, hein. Le petit sucre, la promesse. Alors à ce moment-là, il est tout délirant, n'est-ce pas ? Eh bien, il y a quelque chose comme ça, en respectant toute la différence qu'il y a entre le dressage et l'éducation, hein, et en voyant bien la différence. Mais il y a cela, nous avons besoin toujours d'une promesse. Voici que moi, je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et pour te faire entrer dans le lieu que j'ai préparé. Sois sur tes gardes devant lui et écoute sa voix. Donc, l'ange, toujours très difficile de savoir ce que c'est. Hein. Un envoyé. Je vais envoyer un ange. C'est l'ange qui est envoyé. Sois sur tes gardes et devant lui écoute sa voix. Ne lui sois pas rebelle. Il n'enlèverait pas vos forfaits parce que mon nom est en lui. Mais si tu écoutes vraiment sa voix, si tu fais tout ce que je dirai, je me ferai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Nous retrouvons l'alliance qui était faite avec Abraham. Et ça, c'est le caractère de l'alliance de l'amitié qui devient ici politique. Vous voyez, c'est extraordinaire, ça. Dans l'ordre de l'amitié avec Abraham, c'est bien cela. Tous ceux qui te béniront, je les bénirai. Tous ceux qui te s'opposeront seront mes ennemis. Eh bien, ici, il y a un prolongement de cette alliance d'amitié avec une personne qui se fait au niveau politique. Alors là, vous voyez, on est devant quelque chose qui ne peut plus s'expliquer par l'attitude uniquement religieuse. On est devant une attitude proprement théologale. Et là, on est bien obligé de reconnaître que la dimension purement politique-religieuse est soutenue, dépassée par une attitude de foi et d'espérance. Autrement dit, la Torah ne peut pas se séparer de cette attitude de foi et d'espérance. Si je prends le contenu uniquement de la Torah, je dirais oui, tout ça pourrait justifier. Mais si je regarde la manière dont Dieu éduque son peuple, alors là, il fait appel directement à la foi et à l'espérance. Et on est en présence de quelque chose qui est d'une autre dimension. Ce n'est plus uniquement une dimension religieuse. C'est une dimension théologale, parce qu'elle fait appel directement à l'intervention de Dieu. Et c'est ça qui explique ce qui nous est dit ici. Mais si tu écoutes vraiment sa voix, si tu fais tout ce que je dirai, je me ferai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Oui, c'est déjà la charité. C'est que de fait, il y a une charité fraternelle qui fait que Dieu va épouser profondément tous les sentiments profonds de son peuple. S'il est fidèle, s'il suit l'envoyé, si donc il est conforme aux volontés de Dieu, à ce moment-là, c'est Dieu qui se conforme au sentiment d'Israël, au sentiment de son peuple, puisqu'il considère que les ennemis d'Israël deviennent les ennemis de Dieu. Si tu fais tout ce que je dirai, je me ferai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Car mon ange marchera devant toi et te fera entrer chez les Amoréens, les Hittites, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu, tu ne les serviras pas, tu ne feras pas comme ils font, mais tu devras les démolir et briser leurs stèles. Vous servirez Yahvé, votre Dieu. Il bénira ton pain et ton eau, et j'écarterai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura pas dans ton pays de femme qui avorte ou qui soit stérile. Je te ferai accomplir tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez qui tu pénétreras, et je ferai que tous tes ennemis te montrent le dos. J'enverrai devant toi les frelons qui chasseront de devant toi les Hivites, les Cananéens et les Hittites. Vous voyez bien les trois aspects, hein ? L'ange, la terreur et les frelons. Pas du tout du même ordre. Hein. Mais c'est quand même très intéressant de voir ce parallélisme constant. Ça arrive très souvent. L'ange. Nous imaginons tout de suite l'ange. Notre imagination est très mauvaise. Hein, parce que c'est pas ça du tout. la terreur, nous avons plus de difficultés d'imaginer, n'est-ce pas ? Et les frelons, on sait très bien ce que ça représente. Hein ? Ça fait partie de ces peines que Dieu envoie, qui sont comme toujours présentes. Hein ? Moïse avait ce pouvoir, et bien nous continuons de voir que Dieu continue de garder son peuple de cette manière. Je ne les chasserai pas devant toi en une seule année, de peur que le pays ne soit une désolation et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. C'est peu à peu que je les chasserai devant toi, jusqu'à ce que tu fructifies et que tu hérites du pays. J'établirai ton territoire depuis la mer des joncs jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Tu ne concluras pas d'alliance avec eux ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront pas dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi. Tu servirais leur Dieu, et cela deviendrait pour toi un piège. Ça, c'est la grande promesse qui nous est donnée là, et qui fait déboucher, vous voyez, toute la Torah vers la terre promise. Ça, c'est intéressant, parce que ça montre que la Torah, c'est pour la terre promise. On peut dire ça. La Torah est donnée au désert pour former le peuple d'Israël pour la terre promise. Alors, vous voyez, la terre promise, nous savons très bien les significations diverses que ça peut prendre. Symboliquement, hein, ça peut représenter la terre promise de Canaan, ça peut représenter le Christ. Donc, c'est net que la Torah est ordonnée à cela. Et pour arriver à ce lieu, pour qu'il y ait cette marche dans le désert, vous voyez que Dieu donne trois moyens, en plus de Moïse: l'ange, la terreur et les frelons. Alors, je ne sais pas comment il faut organiser les trois, mais c'est quand même très net qu'il y a ces trois. L'ange, c'est la marche. Te garder en chemin. Mon ange marchera devant toi. C'est tout cet aspect de la nécessité de cette marche dans le désert, vers la terre promise. La terreur devant toi, c'est mettre en déroute les autres. Donc c'est Dieu qui se fait le gardien, si j'emploie les termes des philosophes. C'est Dieu gardien. Il faut une lumière et un gardien. Il faut toujours comme ça. Il faut quelqu'un qui vous oriente. Et puis il faut en même temps cette terreur vis-à-vis de toutes les attaques qu'il peut y avoir. Parce que dans un désert, on n'a pas possibilité de se défendre. J'enverrai devant toi les frelons. Alors je crois que ça s'est rattaché directement à la terreur par rapport au peuple qui risquent d'attaquer, puisqu'ils chasseront de devant toi les Hivites, les Cananéens et les Hittites. Et alors la manière dont Dieu fait ça montre que tout en voulant chasser les autres, il veut garder son peuple. Donc il y a là, je crois, l'aspect qui finalise tout le sens de la Torah. Chapitre 24, nous allons encore voir la signification profonde de la Torah. Et Moïse dit: monte vers Yahvé, toi et Aaron, Nadab, Abihu, ainsi que 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez à distance. Moïse seul s'avancera vers Yahvé. Eux ne s'avanceront pas. Et le peuple ne montera pas avec lui. Une espèce de hiérarchie très nette. Hein, qui est montré. Et Moïse seul est vraiment le confident, celui qui reçoit les secrets. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de Yahvé et toutes les règles. Le peuple entier répondit d'une seule voix. Ils dirent, toutes les paroles qu'a dites Yahvé, nous les pratiquerons. Moïse écrivit toutes les paroles de Yahvé. Il se leva de grand matin et bâtit un autel au bas de la montagne, avec 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya les jeunes gens des fils d'Israël offrir des holocaustes et sacrifier à Yahvé des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et avec l'autre moitié, il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut aux oreilles du peuple. Ils dirent, tout ce qu'a dit Yahvé, nous le pratiquerons et nous l'écouterons. Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, voici le sang de l'Alliance que Yahvé a conclu avec vous, suivant toutes ses paroles. Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, « Voici le sang de l'Alliance que Yahvé a conclu avec vous, suivant toutes ses paroles. » Moïse monta, ainsi que Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage en plaque de saphir, limpide comme le ciel même. Et sur les notables des fils d'Israël, ils ne portent pas la main, ils contemplèrent Dieu, ils mangèrent et ils burent. Yahvé dit à Moïse, « Monte vers moi à la montagne. » Et reste-y. Je vais te donner les tables de pierre, la loi et les commandements que j'ai écrits pour les inscrire, pour les instruire. Moïse partit avec Josué, son auxiliaire, et Moïse monta vers la montagne de Dieu. Et aux anciens, il dit, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Voici que vous avez Aaron et Hur avec vous. Si quelqu'un a une affaire, qu'il se présente à eux. Moïse monta vers la montagne, et la nuée couvrit la montagne. Et la gloire de Yahvé demeura sur le mont Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e, il appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de Yahvé était comme un feu dévorant au sommet de la montagne aux yeux des fils d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et gravit la montagne. Moïse fut sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Vous voyez là ce passage si grand. Beau, cette contemplation de Moïse. Vous savez bien que pour beaucoup de pères de l'Église, et saint Thomas a repris cette considération, que Moïse, sur le mont Sinaï, a eu comme une vision béatifique. Per modum transeuntis, comme disent les théologiens. C'est-à-dire que Moïse devait être, et c'était l'idée profonde, devait être confirmé en grâce au point de vue de sa foi. Et pour cela, il fallait qu'il ait ce contact direct avec Dieu, avec Yahvé. ce contact face à face, cette contemplation, et cette contemplation parfaite, parce qu'il est celui sur qui repose tout le peuple d'Israël. C'est très beau et c'est très grand. On peut discuter pour savoir si vraiment Moïse a eu la vision béatifique du haut du mont Sinaï, mais c'est intéressant de voir que les pères de l'Église ont eu vis-à-vis de Moïse ce respect et cette attitude de voir la grandeur de Moïse. Non, je ne dis ça pour d'autres, hein. C'est uniquement ceux qui, de fait, ont un rôle particulier comme chef de file. Comme ceux à partir de quoi il y a tout l'ordre qui vient ensuite. Ils sont comme principes, si vous voulez. Ils sont comme ceux que Dieu a institués comme chefs. Alors, Moïse a eu ce privilège au milieu de la nuée de gravir la montagne et d'être comme dans un face-à-face avec Dieu. Donc, ceci, je crois, c'est pour nous faire comprendre l'autorité de Moïse et pour nous faire comprendre la grandeur du don de la loi, de la Torah. Ça ne passe pas par des intermédiaires. C'est donné directement par Dieu. Je sais très bien qu'aujourd'hui, toutes les explications qu'on essaie de donner, n'est-ce pas, c'est de voir que, de fait, tout ça peut s'expliquer historiquement. Je crois que si on lit l'Écriture dans la simplicité des pères de l'Église, on ne peut pas nier qu'il y a une intervention de Dieu qui veut reprendre son peuple, le reprendre dans ses mains. Il veut le nourrir, il veut le mettre dans un lieu particulier pour qu'il puisse être plus présent au milieu de lui. Et il lui donne quelqu'un qui est son ami. Moïse est présenté vraiment comme l'ami de Yahvé. Il y a le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il y a quelque chose de particulier pour Moïse. Et ce quelque chose de particulier, c'est pour que nous comprenions le rôle de médiateur de Moïse, la théologie de la médiation de Moïse. Elle doit se comprendre justement dans ce fait que Moïse, à la fois, est tout proche de son peuple. Et peut-être même que l'éducation que Moïse a reçue auprès du Pharaon nous fait comprendre ce contact tout à fait particulier de Moïse avec le peuple d'Israël sous le joug du Pharaon. Et ce contact particulier de Moïse avec Dieu dans cette vision de face à face. Le médiateur, c'est celui qui tient les deux extrêmes. Et ce sera la grande vision que saint Thomas prendra pour la médiation de Jésus. Il est médiateur d'une nouvelle alliance. Et alors, le mystère de l'incarnation montre la médiation dans ce qu'elle a de plus parfait, d'ultime. On ne peut pas penser un médiateur plus parfait que le Christ, en raison même du mystère de l'incarnation. Mais la médiation de Moïse préfigure, pour nous chrétiens, elle préfigure celle de Jésus. Et elle a cette grandeur très unique. On voit très bien comment Moïse est sauvé des eaux. Donc il y a un regard de Dieu très particulier sur Moïse, du point de vue de sa naissance, de son éducation. il faut qu'il soit tout proche de son peuple. Et pour être tout proche de son peuple, il faut qu'il connaisse parfaitement ce qu'est l'Égyptien, ce qu'est l'Égypte, ce qu'est la culture de l'Égypte. Et en même temps, il est celui qui est entièrement pris par Dieu. Et c'est, je crois, ce passage que nous venons de lire qui le montre d'une manière admirable, qui montre comment Moïse a été entièrement saisi, entièrement pris par Dieu à travers la nuée. Alors, la nuée est toujours le symbolisme d'une présence de Yahvé, d'une présence spirituelle et active de Yahvé. Moïse monta vers la montagne et la nuée couvrit la montagne. Et la gloire de Dieu demeura sur le mont Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Alors vous avez la gloire et la nuée. Le 7e jour, alors là aussi, hein, cette nouvelle semaine, c'est une semaine nouvelle ici. Hein. La gloire de Yahvé demeura sur la montagne et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, il appela Moïse du milieu de la nuée. Quand les Cappadociens disent qu'il y a 3 semaines dans l'Écriture, on pourrait en ajouter cette 4e. Les 3 semaines, vous savez bien, les pères Cappadociens disent cette chose très, très belle au point de vue économie divine, c'est très beau du reste. La semaine du Père, c'est la création. La semaine du Fils, elle commence avec Cana. Et la semaine de l'Esprit Saint, c'est la dernière semaine où l'Esprit Saint nous est donné. La grande semaine, la semaine sainte. Alors, vous voyez, et ceci c'est intéressant, parce que quand les pères cappadociens disent ça, c'est qu'ils veulent nous faire comprendre qu'il y a comme un ordre dans l'économie divine. Et cet ordre se prend sur l'ordre le plus fondamental qui soit. C'est l'ordre dans le temps et l'ordre de la semaine. C'est conventionnel, si vous voulez, mais c'est ce qui est le plus fondamental. L'ordre du temps est plus fondamental que l'ordre du lieu. Et alors, il y a là quelque chose qui est extrêmement net. Vous voyez le lieu, le mont Sinaï, qui est sous la dépendance de Dieu, et la nuée et la gloire de Dieu sont présents, mais il y a ces 6 jours. La gloire de Yahvé demeura sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, il appela Moïse du milieu de la nuée. L'appel de Dieu, le 7e jour. Le jour du repos de Dieu. Et le 7e jour pour Jésus, c'est le jour de Cana. C'est là encore le lien, vous voyez, entre Moïse et Jésus. Si vous regardez le début de l'évangile de Saint Jean, hein, vous avez bien le 7e jour, c'est Cana. Alors, c'est quand même très curieux si je fais le lien entre les deux. Et je peux dire que d'une certaine manière, à ce point de vue-là, toute la vie apostolique de Jésus qui commence au 7e jour, c'est le repos du Père qui remet tout à son Fils. Et ici, nous avons quelque chose qui annonce cela. Le repos du Père qui laisse toute la place à Moïse, le médiateur. Et alors ça, ça fait partie de toute cette théologie que je crois très importante pour nous, cette théologie des effacements de Dieu, l'effacement du Père par rapport à Moïse, par rapport à Jésus, l'effacement de Jésus par rapport à l'Esprit Saint, l'effacement de l'Esprit Saint par rapport à l'Église. Ce sont un grand mystère d'effacement. Et ce grand mystère d'effacement ne peut se comprendre que dans l'ordre de l'amour. C'est, je le crois, le propre d'un ordre de sagesse, qui est un ordre d'amour, qui ne peut se comprendre que de cette manière-là. Mais j'aime mieux dire effacement que humilité de Dieu, parce qu'il n'y a pas d'humilité au sens absolu en Dieu. Mais il y a quelque chose qui va plus loin que l'humilité, c'est les effacements. Quand on aime quelqu'un, on s'efface devant lui et on le laisse passer devant. Et alors, ces effacements expriment le point de vue d'un ordre d'amour. Le Père s'efface devant Moïse. C'est bien le septième jour. Hein. Le septième jour, il appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de Yahvé était comme un feu dévorant au sommet de la montagne. L'aspect de la gloire de Yahvé. Alors, toujours, hein. Saint Jean qui reprend tout le mystère de la gloire. Tout le mystère de la gloire qui est présent et tellement présent dans le mystère de la croix. Et la croix, c'est la nouvelle alliance dans le sang du Christ. C'est la nouvelle alliance. C'est là où Jésus est le nouveau médiateur. Et vous avez donc ici qui annonce cela d'une façon préfigurative. L'aspect de la gloire de Yahvé était comme un feu dévorant au sommet de la montagne, aux yeux des fils d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et gravit la montagne. Moïse fut sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Alors les 40 jours et les 40 nuits qui représentent comme une plénitude. De vous, ce chiffre symbolique des 40 jours et des 40 nuits, Jésus au désert. Et ce tabor qui dure 40 jours et 40 nuits. Moïse n'est pas au désert, il est sur la montagne. Et sur la montagne, il est dans un face-à-face. Yahvé parla à Moïse en ces termes. Dis aux fils d'Israël de prendre pour moi un prélèvement de tout homme. Que son cœur y poussera, vous prendrez mon prélèvement. Et voici le prélèvement que vous prendrez d'eux, de l'or, de l'argent et du bronze, de la pourpre violette, de la pourpre rouge, du cramoisi, du lin fin et des poils de chèvre. Des peaux de bélier peintes en rouge et des peaux de dauphin, des bois d'acacia, de l'huile pour le luminaire, des baumes pour l'huile de l'onction et pour l'encens aromatique, des pierres d'onyx et des pierres à sertir pour l'éphode et pour le pectoral. Ils me feront un sanctuaire. Et je demeurerai au milieu d'eux, selon tout ce que je te montre, comme le modèle de la demeure et comme le modèle de tout son mobilier, ainsi ferez-vous. Donc, c'est le mystère de la présence de Yahvé au milieu de son peuple qui est annoncé d'une manière symbolique. Ça mettra du temps à l'exécution. Hein. On ne va pas s'exécuter tout de suite, puisque c'est Salomon qui réalisera. Mais c'est le désir premier du cœur de Yahvé. Il veut être présent. Et toute la théologie de la présence. Hein. Je vous ai déjà dit dans l'évangile de Saint Jean qu'il fallait essayer de comprendre toute la théologie de la présence à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 12. Vous avez à travers les grandes luttes, vous avez les sept grandes présences de Jésus. Et vous avez là la théologie de la présence. Le temple est dépassé, puisque c'est Jésus qui est le nouveau temple. Pour nous, le temple, c'est le corps du Christ. Il n'y a pas d'autre temple que le corps du Christ. Et donc le mystère de la présence va se prendre à partir de ces grandes affirmations de Jésus, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis. Et puis, quatre autres affirmations, je suis la porte, je suis le berger, je suis le Fils de Dieu. Et puis la dernière affirmation, je suis la résurrection. Je crois que nous avons là vraiment la théologie de la présence. Alors, il est bon d'essayer de regarder dans l'ancienne alliance toutes les préfigurations de ce mystère de présence. C'est très important dans une théologie mystique de regarder la présence. Cherchez dans un thème, vous ne verrez pas en théologie scientifique le thème, la présence. Dans une théologie mystique, il faut au contraire comprendre ce que représente ce mystère de la présence, les exigences de la présence de Dieu. Dieu veut être présent. Il est un Dieu caché, mais qui veut être présent. Il ne veut pas du tout être loin. Il est loin quand nous, nous le chassons. Alors il est loin. Mais autrement, il veut être présent. Et il ne peut être présent que si nous-mêmes nous coopérons. Puisque la présence, c'est réciproque. C'est une relation réciproque, la présence. On n'est présent à quelqu'un que dans la mesure où lui-même est présent. Autrement, on n'est pas présent. La vraie présence implique une réciprocité. C'est pour ça que la présence parfaite, c'est toujours dans l'ordre de l'amour d'amitié. Où il y a une réciprocité entre l'ami et son ami, et cette réciprocité permet la présence parfaite. C'est vrai que c'est entre des amis où le mystère de la présence, ou le problème de la présence, style Gabriel Marcel, le mystère de la présence, devient parfait. C'est vraiment entre amis. Avec les autres, il y a une certaine présence, mais elle n'est pas aussi forte. Donc la présence, vous voyez, implique une coopération dans l'ordre de l'amour. C'est une réciprocité dans l'ordre de l'amour. Alors c'est très important de voir ce premier moment où Dieu veut être présent au milieu de son peuple, d'une manière stable. La présence de Dieu, elle existe déjà quand il envoie son ange. La présence de Dieu, elle existe avec Abraham chaque fois que Dieu apparaît. Et chaque fois que Abraham, Isaac et Jacob construisent un autel, c'est pour marquer le signe de la présence de Dieu. Il y a une réponse à Dieu qui vient, qui envahit le cœur d'Abraham, le cœur d'Isaac et de Jacob. La réponse, c'est de construire un autel. Et c'est le premier signe de la présence. Mais c'est une présence passagère. Envoyer l'ange, c'est une présence passagère. Parmi les dons que Dieu fait au désert, c'est une présence passagère. La présence première qui demeure, c'est lorsque Moïse est sur le mont Sinaï. C'est la première grande présence qui demeure. C'est pour ça que je dis, c'est le premier moment de la contemplation, je crois. Parce que le propre de la contemplation, c'est justement de vivre d'une présence qui demeure. Et cette présence qui demeure dans la contemplation, se manifeste, du moins, à travers cette présence contemplative, Dieu montre le désir profond qu'il a, qu'il y ait un sanctuaire qui indique sa présence et qui soit le lieu de sa présence. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. C'est un langage très symbolique. Dieu n'a pas besoin d'un sanctuaire pour demeurer. C'est bien évident. L'omniprésence de Dieu fait que nous sommes tous, comme créatures, le sanctuaire de Dieu. Tous. Toute créature raisonnable qui prend conscience de la présence d'immensité de Dieu devient le sanctuaire de Dieu. Mais Dieu veut, pour marquer une présence qui n'est plus simplement la présence de l'homme, la présence du Créateur, mais la présence de l'ami, la présence du Père, et plus tard on verra la présence de l'époux. Dieu veut que ce soit manifesté par un signe. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Vous voyez, l'autel qui est la réponse à la présence de Dieu et à l'apparition de Dieu ne suffit pas. Il faut quelque chose de plus. Il faut la construction d'un sanctuaire. L'autel manifeste simplement qu'il y a eu un passage de Dieu. Tandis qu'au contraire, ici, le désir de Dieu, c'est qu'il y ait un sanctuaire, que je demeurerai au milieu d'eux, selon tout ce que je te montre, comme le modèle de la demeure. Le modèle de la demeure. Il demeure. Comme le modèle de tout son mobilier, ainsi ferez-vous. Alors, c'est Dieu qui va indiquer à Moïse toutes les exigences de ce sanctuaire et de cette demeure.